Bien, bonjour. Ça fait 8 ans et 4 mois que je suis parti d'ici. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui ont changé. Vous n'êtes pas des choses. Mais ça me fait plaisir d'être de nouveau parmi vous un matin. Voilà, je vous apporte aussi les salutations de l'église de Cône, Cône-sur-Loire. On est nettement moins nombreux le dimanche matin, et ce dimanche matin il n'y a pas de culte parce que notre culte a eu lieu hier soir suite à un atelier de fabrication de couronnes de l'Avent. Voilà, ça c'est pour le côté relationnel. Au Blanc-Mesnil. À Cône, je suis une série de prédications avec le thème du roi David. Et je n'ai pas repréparé quelque chose pour ce matin, j'ai simplement repris quelque chose que j'avais déjà donné. Mais pour que vous puissiez le prendre en cours de route, je vais peut-être faire un petit résumé de la vie de David. On est en l'an 1000 avant Jésus-Christ à peu près, dans un petit royaume dont un roi n'est pas très fidèle à Dieu, c'est le roi Saül, et Dieu va appeler un jeune ado qui se trouve à ce moment-là derrière le troupeau de son père, troupeau de moutons de son père, et va l'appeler pour devenir roi. Il va y avoir diverses péripéties dans la vie de cet ado qui vont lui permettre de gravir un peu les marches dans le royaume pour finalement devenir un des responsables de l'armée de ce pays. Et puis la jalousie du roi fait qu'il va devoir partir en exil. Un temps difficile pour David. Plusieurs années. Les circonstances vont faire, non pas que les circonstances, Dieu. Dieu va faire que David revienne dans son pays, David accède au trône, et Dieu va lui donner un certain nombre de victoires, un certain nombre de situations où finalement il va accéder à une situation apaisée après de nombreuses guerres. Et j'ai l'impression, en lisant son histoire dans le livre, qu'on a une montée. On monte jusqu'au moment où on arrive vers un sommet. Et on va prendre l'histoire où, quelque part, c'est le sommet de sa gloire. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 10, si vous voulez suivre le texte avec moi. Deuxième livre de Samuel, chapitre 10. Une histoire qui va nous montrer jusqu'où peut mener un quiproquo. Donc, au chapitre 9, on voit que David est tous les rois autour font la paix avec lui. Tous les rois autour sont dans une situation David est dans une situation de paix. Même un des rois, le roi de Tyr, est venu lui construire son palais. Et au chapitre 10, une situation un peu bizarre. Quelque temps après, le roi des Ammonites mourut. Et Hanoun, son fils, régna à sa place. David se dit: je veux témoigner de la bonté au jeune roi comme son père m'en a témoigné. David lui envoya donc certains de ses hauts fonctionnaires pour lui présenter ses condoléances à l'occasion de la mort de son père. Lorsque ceux-ci arrivèrent au pays des Ammonites, les dirigeants de ce peuple dirent à Hanoun, leur souverain: crois-tu que ce soit pour honorer la mémoire de ton père que David t'envoie des gens t'adresser des condoléances? N'est-ce pas plutôt pour reconnaître et espionner la ville afin de la détruire. Alors Hanoun s'empara des ambassadeurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et leur fit couper les habits à mi-corps jusqu'en bas du dos. Puis il les renvoya. Ceux-ci en furent si honteux que, lorsqu'on informa David de ce qui s'était passé, il envoya des messagers à leur rencontre pour leur faire dire « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé. Vous reviendrez ensuite. » Les Ammonites comprirent qu'ils s'étaient rendus odieux à David. Alors ils envoyèrent des hommes pour enrôler à leur solde 20 000 mercenaires chez les Syriens de Beth-Rehob et de Tsoba. 1 000 hommes chez le roi de Maaca et 12 000 chez celui de Tob. Quand David l'apprit, il envoya contre eux Joab à la tête de toute l'armée des soldats de métier. Les Ammonites firent une sortie et se rangèrent en ordre de bataille à la porte de leur capitale, tandis que les Syriens de Tsoba et de Rehob, avec les soldats de Tob et de Maaca, restaient à part en rase campagne. Voyant qu'il aurait à faire face sur deux fronts à la fois, devant et derrière lui, Joab sélectionna ses meilleurs soldats et les fit ranger en ordre de bataille face aux Syriens. Il confia le commandement du reste de l'armée à son frère Abishai, qui le rangea en ordre de bataille pour affronter les Ammonites. Joab dit à son frère, « Si tu vois que les Syriens l'emportent sur moi, tu viendras à ma rescousse. Si les Ammonites sont plus forts que toi, c'est moi qui viendrai à ton secours. Bon courage et luttons vaillamment pour défendre notre peuple et les villes de notre Dieu. Que l'Éternel fasse ce qu'il jugera bon. » Alors Joab et sa troupe s'avancèrent pour le combat contre les Syriens. Ceux-ci prirent la fuite devant eux. Quand les Ammonites virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent à leur tour devant Abishai et se retirèrent dans la ville. Alors Joab mit fin à la campagne contre les Ammonites et rentra à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été mis en fuite par les Israélites, rassemblèrent toutes leurs troupes. Le roi Hadadézer envoya des messagers pour mobiliser les Syriens établis de l'autre côté de l'Euphrate. Ils arrivèrent à Élam avec à leur tête Shobak, le chef de l'armée de Hadadézer. Quand David en fut informé, il mobilisa tout Israël, traversa le Jourdain et marcha sur Élam. Les Syriens se rangèrent en ordre de bataille pour affronter David et engagèrent le combat. Mais ils furent mis en fuite par les Israélites. David leur tua 700 chevaux attelés au char et 40 000 soldats sur char. Il frappa aussi Shobak, leur général en chef, qui mourut sur le champ de bataille. Quand tous les rois vassaux de Hadadézer virent qu'ils avaient été battus par Israël, ils firent la paix avec les Israélites et leur furent assujettis. Après cela, les Syriens n'osèrent plus venir au secours des Ammonites. J'ai envie de dire, voilà une histoire dramatique. Tout part d'un bon sentiment. David veut témoigner de la bienveillance à un jeune roi qui vient de perdre son papa. Et ça finit avec 40 000 morts. 40 000 morts. J'ai affiché une carte, ça vous donne une petite idée de la situation de l'époque. Vous voyez à votre droite Amon, Jérusalem ici où vit David, et c'est le roi ici qui est décédé. Vous voyez la surface rose. Rose, rouge, je ne sais pas très bien. C'est le royaume tel qu'il sera dans sa plus grande partie par les conquêtes de David et entre autres suite à cette guerre. La situation initiale, c'est David, jeune roi, qui a reçu la sympathie de bien des rois alentour. Et qui désire témoigner de la sympathie. Donc j'ai dit à ce jeune roi ammonite qui vient de prendre le pouvoir suite au décès de son père. Mais il semble que jeune est moins sage que le père. En tout cas, les deux royaumes semblaient être en paix. Peut-être y avait-il une tension larvée. Le texte ne le dit pas. Mais c'est parfois l'origine de conflits, dont personne n'est étonné quand ils éclatent. On vit cette année le centième anniversaire du début de la Première Guerre mondiale. Quand la Première Guerre mondiale a éclaté, personne ne s'est étonné. Il y avait tellement de tensions en Europe. Alors je ne sais pas si c'était la situation à ce moment-là. Mais l'initiative de David part vraiment d'un bon sentiment. Il veut perpétuer la paix, une sympathie entre les deux nations. Il met beaucoup de bonne volonté. Il envoie une délégation. C'est quelque chose qui se fait encore maintenant. Quand un chef d'État décède, tous les pays envoient une délégation. Ça paraît normal. Aux yeux de David, ça paraît être le minimum. La délégation est officielle. Comment ça se voyait qu'elle était officielle, je ne sais pas. Mais en tout cas, Hanoun l'a reçue comme étant officielle. Et la réaction de Hanoun et de ses conseillers est mêlée de suspicion, de méfiance. Il voit une mauvaise intention. Et ils vont faire quelque chose d'odieux. Alors pour nous, ça ne nous paraît pas si odieux que ça. Bon, c'est vrai, on ne voit pas beaucoup de gens avec seulement la moitié de la barbe rasée, mais à l'époque, la barbe, c'était un signe de sagesse, de maturité, de courage, de virilité. Quelque chose d'important. Tous les hommes qui se respectent avaient la barbe. Moite-moite, ça fait moins bien. La robe, c'est parce qu'ils n'avaient pas des pantalons à ce sens-là. Et puis, mais quand on allait travailler au champ, la robe, on la repliait. On avait un vêtement court. Ça signifie qu'ils étaient en délégation officielle. Ils avaient une robe longue. Leur couper la robe à mi-hauteur, imaginez François Hollande qui va dans un pays et puis on lui taille un short dans son pantalon. Ça se fait pas. En tout cas, il y a un quiproquo. Et Hanoun a pris une situation pour une autre. Il a mal interprété les intentions de David. Ce que je trouve incroyable, c'est que David ne le prend d'abord. Il a compris que c'est honteux. Mais il ne va pas en faire une situation d'État. Restez un temps à Jéricho. Et puis, quand la barbe aura repoussé, vous reviendrez. David cherche la paix encore. Hanoun, lui, il a la réaction inverse. Il a compris qu'il a fait une bêtise. Tout de suite, il va mobiliser. 1000 par-ci, 12 000 par-là. C'est une armée, quoi. Et puis, David, qui a des espions qui font bien leur travail, remarque tout de suite que ça va mal se passer. Mais il n'envoie pas toute l'armée. Seulement les pros. L'armée professionnelle. Mission défendre. Quand ils ont la victoire, ils ne vont pas attaquer la ville. Repli à la maison. Encore une fois, David cherche la paix. Là-dessus, les Syriens se disent « On s'est mal comporté, il faut quand même... » Et là, c'est la Syrie qui mobilise toute l'armée. Ils font venir les gens de l'autre côté de l'Euphrate. L'Euphrate, c'est le petit fleuve tout en haut à droite. Donc, ils font venir des gens de loin pour la guerre. Là, David est obligé de mobiliser toute l'armée. Et finalement, la victoire sera éclatante pour Israël. David est au sommet de sa gloire. Alors, on peut regarder un peu le côté chauvin, un peu le côté pro-Israël. Ah, c'est génial, Dieu a donné la victoire. Alléluia ! Je crois que c'est juste, d'un certain côté, de dire Dieu a protégé son peuple. Dieu a été avec son peuple. Dieu a béni David. Et puis, derrière David, il y a l'autre Messie. Parce qu'il y a le premier Messie, David est le Messie. Il a été oint par le prophète pour devenir roi d'Israël. Mais Dieu avait promis à David un descendant qui serait aussi oint de l'Esprit de Dieu pour être celui que nous connaissons sous Jésus-Christ, sous le nom de Jésus-Christ. Et donc, c'est tout à fait juste de voir la bénédiction de Dieu dans ce domaine et de faire le parallèle entre ces deux rois. Mais cette histoire est aussi révélatrice du comportement humain qui peuvent conduire soit à la paix, soit à la guerre. Et ce qui se passe au niveau des peuples, des rois, au niveau international, peut se passer aussi au niveau individuel, humain, parfois même fraternel. Je disais tout à l'heure, c'est l'année du 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. Mon fils, quand il va à la médiathèque, on lui demande de choisir un livre, il ne va pas chercher une histoire, il part chercher un documentaire. Et par deux fois, cette année, il nous a rapporté un documentaire sur la Première Guerre mondiale. Bon, on a lu le documentaire sur la Première Guerre mondiale. Et puis, quand on lit, on commente un peu. Puis c'est clair que tous ces morts, il est tout à fait d'accord avec le fait que c'est mal la guerre. Mais faire le passage entre « c'est mal la guerre » et puis « quand tu te chamailles avec ta sœur, c'est les mêmes principes » qui fonctionne, là, des fois, c'est difficile à faire passer. Mais c'est la même chose. On se comporte en tant qu'humain comme on se comporte en tant que peuple. Et c'est ce que je vais plutôt approfondir ce matin, et c'est pour ça que j'ai fait un PowerPoint. On a deux rois, deux attitudes, deux comportements, une possibilité de choisir. David qui cherche la paix, qui refuse le conflit aussi longtemps que possible. Hanoun qui interprète tout en négatif, qui est dans une logique de guerre, de conflit. Et c'est une escalade de la violence et la guerre finit par avoir lieu.
Trop attendu.
Ça va revenir. C'est revenu. Je vais introduire la première chose. Donc, notre vie est faite d'événements. Notre vie est faite de choses qui se passent tous les jours. Et tous ces événements, on est tous à les interpréter. J'ai mis tout en haut un carré, un acte. C'est un de ces événements qui s'est passé. Quelqu'un a fait quelque chose. Parfois, ce qui a été fait peut être très malveillant. Mais parfois, ce qui a été fait est tout à fait bienveillant. On est dans la situation de David, bienveillant. Malveillant, on est dans la situation de Hanoun. Parfois, c'est tout à fait neutre. J'ai croisé quelqu'un dans la rue, je ne l'ai pas vu, je suis passé, je n'ai pas dit bonjour. C'est neutre. Mais la personne, elle m'a vu, je n'ai pas dit bonjour, mais il m'en veut, qu'est-ce qui se passe? Puis il se monte toute une histoire. En tout cas, je me sens agressé. Ça ne veut pas dire que la personne a voulu m'agresser. Mais je me sens agressé. C'est mon interprétation. C'est la situation de Hanoun. Il se sent agressé. C'est pas la volonté de David. Alors, quand on se sent agressé, il y a une question de valeur personnelle. Quelque part, j'ai l'impression de ne pas avoir été reçu ou reconnu à ma valeur. Je peux me sentir méprisé. Et quand je me sens méprisé, j'ai besoin d'avoir le sentiment de valoir quelque chose. On a tous besoin d'avoir le sentiment de valoir quelque chose. Je veux chercher à défendre ma valeur personnelle. Comment est-ce qu'on va défendre sa valeur personnelle ? On va réfléchir. Parfois, ça va pas long pour réfléchir. Idiot ! Idiot toi-même. On n'a pas mis une demi-heure pour réfléchir. Non ? Mais à ce moment-là, on arrive au besoin de décider. Comment est-ce que je vais réagir ? Je peux choisir la réaction comme David ou la réaction comme Hanoun. Et suite à cela, je vais faire quelque chose. Ça peut être le désir d'appuyer mes qualités, certaines formes d'orgueil. Ça, c'est un peu ma façon de réagir souvent. Je vais vous montrer que vous voulez me rabaisser, je vais vous montrer que je suis meilleur. Je peux chercher à rabaisser l'autre. Idiot toi-même. Voilà. Après, il y a celui qui fuit. J'évite le contact. Ça m'évite de me retrouver rabaissé. Ou je choisis d'interrompre la spirale. C'est pas encore une spirale, ça va devenir une spirale. De pardonner. Ou peut-être d'aller sonder. Est-ce que vraiment il me voulait du mal? Ou est-ce que simplement il me voulait du bien? Si je choisis cette solution, c'est une façon de sortir et d'être libre dans cette situation-là. Sinon, je remets mes... Je vais poser un acte plutôt malveillant. Et cet acte va entraîner la symétrie. L'autre va se sentir agressé. Et quand il se sent agressé, il a un problème de valeur personnelle. Quand il a un problème de valeur personnelle, il va chercher à se revaloriser. Il arrive à la décision. Et la même chose, il peut choisir l'un ou l'autre. Et on est dans une boucle. Quand on est dans la boucle, on tourne. Combien de temps est-ce qu'on peut tourner ?
Jusqu'à la mort.
Jusqu'à la mort. Ou jusqu'à qu'un des deux décide de sortir. Alors, quelques remarques. On n'est pas toujours conscient de ces mécanismes. C'est un schéma. Ce schéma n'englobe pas toutes les situations de toute la vie. Et forcément, quand on fait un schéma, on simplifie. Mais je ne sais pas si vous êtes déjà reconnu parfois dans ce schéma. Moi, de temps en temps, quand même. Non, un peu souvent. Rabaisser l'autre ou se revaloriser, c'est pas toujours par des actes malveillants, mais ça peut blesser quand même. J'ai mis attention à la cocotte minute. J'appelle ça la pollution relationnelle. C'est pas de moi que vient ce terme. Mais vous savez, c'est toutes ces petites choses dans les relations de tous les jours qu'on a avec les gens. Et puis finalement, si on ne fait pas l'effort de soit de dire c'est pas grave, ou de dire je vais tout de suite sonder pour savoir si c'était intentionné ou pas, ou si on ne fait pas l'effort de tout de suite régler ces petites situations, petit à petit on les accumule. Puis à un moment donné, la pression monte, jusqu'à que la goutte qui fait déborder le vase, et on explose. Régler tout régulièrement, c'est les questions de pollution relationnelle. J'aimerais faire quelques remarques pour conclure. On appelle ça le cercle vicieux de l'agression. C'est comme une autoroute à péage. On rentre facilement, il suffit de prendre un ticket. On paye quand on sort. Et plus on a fait de tour, plus c'est cher à la sortie. Comment est-ce qu'on paye ? En pardonnant, c'est pas facile de pardonner. Ou en acceptant de dire je n'ai pas forcément besoin de me valoriser devant lui. J'ai d'autres façons de trouver ma valeur. Deuxième remarque, quand on renverse un bocal, ne sort du bocal que ce qu'il y avait dedans. C'est évident quand on renverse un bocal de moutarde. Il sort de la moutarde. Quand les événements de la vie renversent le bocal aimé, il sort ce qu'il a dans son cœur. Si dans son cœur il y a de la méchanceté, il sort de la méchanceté. Si dans son cœur il a cette capacité à pardonner, parce que l'Esprit de Dieu a transformé sa vie,
amen.
Il peut sortir des choses bonnes.
Gloire à Dieu, amen.
Quand on renverse un bocal, il sort ce qu'il y a dans le cœur. Est-ce que nous laissons Dieu transformer nos cœurs ? Il y a une chose qui revient dans ce cercle, c'est la question de la valeur personnelle. Ce cercle sous-entend finalement que ma valeur personnelle dépend de ce que l'autre pense de moi. Est-ce que ma valeur personnelle dépend de ce que l'autre pense de moi ? Ou est-ce que ma valeur personnelle dépend de ce que Dieu a fait de moi ? Si je sais que je suis une créature merveilleuse que Dieu aime, comme il m'a créé, finalement, si l'autre me dit que je suis un idiot, je crois Dieu. C'est une bonne façon de sortir du cercle. De qui dépend ta valeur personnelle ? Et puis, vous avez remarqué que le schéma est symétrique, avec deux décisions. Donc chacun est libre de sortir. Si l'autre ne veut pas sortir, moi je peux sortir. Si je sors, je suis libre. Mais chacun a toujours la balle dans son camp. Si je choisis de sortir sans pouvoir m'arranger avec l'autre, je suis d'accord. Ça coûte plus cher parce que c'est à moi de gérer mes émotions. Et puis peut-être une dernière remarque. Ça, c'est la théorie. Maintenant, il vous reste la pratique dans la vie de tous les jours. C'est pas facile, mais on a un grand Dieu.
Amen.
Et Simon le répétait tout à l'heure, finalement, où est-ce qu'on regarde ? Comment tu disais, quand le sage montre la lune, Le seau regarde le doigt, c'est ça? Où est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde à Dieu qui veut me donner cette relation, cette valeur personnelle, cette relation avec lui qui va me permettre de sortir, qui va me permettre de ne pas rentrer dans ce cercle. Parce que plus vite je sortirai, moins ça me coûtera cher. Alors que Dieu vous aide à sortir.
Amen. Amen. Merci de ton conseil.
Je remercie Dieu pour cette prédication qui nous rappelle.
Amen.
Surtout moi, ce que j'ai retenu principalement, c'est que je suis une créature merveilleuse.
Amen.
Que Dieu a faite avec amour. Et je crois que c'est valable pour chacun d'entre nous. Alors, je vais vous proposer de conclure notre culte. Ah pardon. Ah, hop. Affiché. Diaporama. Voilà. Donc. Voilà, donc un rajout du groupe de louanges. Hein. Hop, que je retrouve. Bénis Dieu, ô mon âme. Hop, voilà. Imposé sous la torture par le groupe de louanges. Mais... Non, un chant magnifique, et c'est vrai qu'on l'a chanté, beaucoup ces derniers temps. Mais je pense qu'on pourrait le chanter continuellement parce que c'est vrai, au fond, nous savons que notre âme a mille raisons de bénir Dieu. Je pense qu'on peut se mettre debout pour chanter ce chant. Cœur est bon, je me sais.
milliers de raisons pour louer.